Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Comme tous les jours, RFI vous donne la parole. Dans un instant, ce seront vos questions à la rédaction d'RFI pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les sujets que vous venez d'entendre, par exemple, dans le journal de Jean-Baptiste Marot. En tout cas, vous souhaitez un complément d'information. Surtout, n'attendez pas le début de l'émission. Vous nous appelez tout au long de la journée. Nous réceptionnons vos questions. Et ensuite, évidemment, nous essayons de trouver au sein de la rédaction, au sein de nos envoyés spéciaux, de nos correspondants, qui est le mieux placé, le plus expert en la matière pour vous répondre. Et puis dans 30 minutes, comme tous les vendredis, ce sera la libre antenne, vos réactions, vos commentaires sur l'actualité de votre choix. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué dans l'actualité française, internationale, africaine. Vous savez que tous les sujets nous intéressent. C'est l'occasion, si vous le souhaitez, de nous interpeller sur les sujets qui ne font pas la une de la presse internationale, des sujets dont on n'a pas forcément parlé dans l'émission durant la semaine. Vous nous écoutez à l'étranger, en France, appelez-nous, vous êtes les bienvenus. 33 9 693 693 70 09 693 693 70. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux, Twitter et la page Facebook de l'émission. Vos questions donc. La première question nous vient du Tchad. Nous allons à N'Djamena, la capitale. Bonjour Moussa.
Bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
Merci d'être avec nous. Vous nous appelez donc de N'Djamena et vous avez des questions sur les relations franco-rwandaises.
Effectivement, j'ai appris sur l'antenne des défis que l'Élysée a décidé de classifier les documents sur les Rwandais. À ce propos, j'ai trois séries de questions à vous poser et ma question est la suivante. Comment expliquer cette décision et pourquoi seulement maintenant? Et quel impact peut-elle avoir sur la relation entre la France et les Rwandais? Et quelle est la réaction des autorités rwandaises après cette déclassification des documents?
Ouais, l'Élysée qui a donc annoncé mardi la déclassification des documents datant de 90 à 95 sur le rôle de la France au Rwanda, annonce faite donc mardi le 7 avril, le jour marquant le 21e anniversaire de la commémoration du génocide rwandais. Bonjour Sébastien Lemaitre.
Bonjour Juan, bonjour Moussa, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. On comprend la question de Moussa, on sait que les relations sont tendues entre Paris et Kigali. Comment expliquer cette décision de la France?
Alors, il faut voir un petit peu le timing là, Juan. On est en fait dans une nouvelle étape des relations entre le président français François Hollande et son homologue rwandais Paul Kagame. En 2012, quand François Hollande est élu, en fait, il opte un peu pour une politique de continuité par rapport à son prédécesseur Nicolas Sarkozy. On se rappelle que c'est sous le mandat de l'ancien président que les relations diplomatiques franco-rwandaises avaient repris après 3 ans de rupture, 3 ans de brouille et de rupture de ces relations. Et en février 2010, Nicolas Sarkozy s'était rendu à Kigali, première visite quand même d'un président français depuis 94, qui avait en fait scellé la réconciliation franco-rwandaise.
Et donc quand François Hollande arrive au pouvoir, il s'appuie évidemment sur cet héritage.
Oui, et en fait, il pense un petit peu que des procès de présumés génocidaires en France, ça suffirait à calmer un petit peu les Rwandais, notamment celui de Pascal Simbikangwa, qui est un ex-capitaine de la garde présidentielle, condamné en 2014 à 25 ans de réclusion. C'était un procès quand même historique, le premier en France lié au drame rwandais. Et pourtant, malgré ce verdict, ça n'a pas suffi, puisque un mois plus tard, boum, juste avant les 20 ans du génocide, juste avant les commémorations, Paul Kagame accuse la France d'avoir carrément participé à l'exécution du génocide. Donc là, c'est un nouveau coup de froid sur les relations bilatérales de la France qui boycotte les commémorations.
Et il accuse clairement les soldats français qui avaient participé à l'époque à l'opération turquoise, opération militaro-humanitaire. Donc avec cette déclassification, Sébastien Lemaitre, on entre, on peut le dire, dans la deuxième étape des relations franco-rwandaises sous le mandat François Hollande.
Effectivement, c'est une étape où il y a une volonté quand même d'apaiser les choses avec cette déclassification. Paul Kagame demande des excuses officielles de la France pour son rôle durant le génocide, ça il l'a dit. Paris refuse jusqu'à présent, mais en déclassifiant, il fait quand même un geste le jour du 21e anniversaire du génocide, vous l'avez dit, c'est pas anodin. Également, François Hollande s'inscrit dans un travail de mémoire, ça fait partie de sa politique. Le 17 octobre 2011, on s'en souvient, Il était tout juste élu candidat socialiste pour la présidentielle et il avait rendu hommage aux Algériens morts durant la manifestation du 17 octobre 1961. Il avait déclaré que trop longtemps cet événement avait été occulté, qu'il était important de rappeler ces faits. Et l'année suivante, il avait eu un discours un peu similaire. Et puis enfin, faut pas se le cacher, la déclassification, ça retire quand même un argument au Rwanda et aux organisations de défense des droits de l'homme. Comme ça, François Hollande peut dire bah, l'Élysée a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire déclassifier ses propres archives.
Ouais, Moussa nous demandait également si ce geste de l'Élysée peut avoir un impact positif sur les relations entre la France et le Rwanda.
L'impact est difficile à évaluer. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y aurait pas forcément d'énorme impact. Hein. Le Rwanda exige quand même des actes assez forts de la France, notamment des excuses officielles. Paris refuse. Il n'y en a pas eu pour l'Algérie, en tout cas pas pour l'instant. Il n'y en aura pas forcément du tout pour le Rwanda, en tout cas pas pour l'instant non plus. Hein. D'autant que François Hollande fait face quand même en ce moment à un lobby qui est assez important de l'armée française. Elle est très présente en Afrique, hein, cette armée française. Il y a le dispositif Barkhane qui vient tout juste d'être déployé. C'est la lutte contre le terrorisme. Donc ce serait difficile pour François Hollande de présenter des excuses au Rwanda pour le rôle de la France pendant le génocide. Ça, parce que ça insinuerait que voilà, les militaires français de l'époque seraient peut-être complices en fait des génocides. Ouais. Des génocidaires. Et puis, il y a plusieurs sources qui indiquent qu'il n'y a pas forcément de grandes révélations à attendre de ces documents déclassifiés. Donc, encore trop tôt pour connaître vraiment l'impact, mais à mon sens, il n'y aura pas forcément grand-chose.
Ouais, quand on parle de documents déclassifiés, il s'agit essentiellement de notes de conseillers diplomatiques et militaires de l'Élysée. On parle également de comptes rendus de conseillers restreints de défense. On parle d'une centaine de documents.
Un peu plus que ça, quand même plusieurs centaines, autour d'un millier.
Un millier tout de même. Moussa nous demandait également, et c'était sa dernière question, la réaction des autorités rwandaises, plutôt positive.
Positive, mais prudente. Hein, côté Kigali, en fait, c'est le ministre rwandais de la justice qui s'y est collé, qui a salué cette décision. Johnston Businyé a aussi dit espérer que la déclassification soit totale. Sous-entendu, Rwanda, certains documents trop sensibles pourraient échapper à l'opération. Jean Damascène Bizimana, qui est ancien secrétaire exécutif de la commission rwandaise de lutte contre le génocide, s'est aussi félicité de cette déclassification, mais il se demande également si des éléments sensibles n'auraient pas pu être filtrés. Hein, bon, une source à l'Élysée qu'on a eu en ligne a en tout cas confirmé que rien n'avait ôté des cartons, là je cite. Certaines informations quand même ont été retirées, notamment pour des soucis de sécurité, certains noms qui apparaîtraient, soucis d'intimité, de la vie personnelle. Donc certaines choses ont été retirées, mais l'Élysée le dit, le répète, rien de sensible n'a été retiré, rien d'officiel en tout cas.
Et à l'Élysée, on annonce également que des documents des affaires étrangères, du ministère de la Défense et même du ministère de la Coopération seront déclassifiés sans préciser de date.
Hein, l'inventaire est en cours et ce qu'on attend tous beaucoup, c'est notamment le côté militaire, hein, les archives militaires.
On va en parler tout à l'heure, vous êtes quelques-uns à nous avoir contactés pour réagir à cette décision de l'Élysée. La Libre Antenne, ce sera dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup Sébastien Lemaitre d'être venu répondre à Moussa qui nous appelait de N'Djamena. Autre question standard, Amaïb, bonjour.
Bonjour Van, bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
Vous êtes à Mopti au Mali et vous avez des questions sur l'affaire du supposé financement libyen dont Nicolas Sarkozy aurait pu bénéficier pour sa campagne électorale de 2007.
Oui, j'ai entendu sur la Radio France Internationale l'audition de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré sur l'affaire du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Je voulais savoir pour quelles raisons Amadou Toumani Touré a été auditionné. Y a-t-il un rapport entre Amadou Toumani Touré, Nicolas Sarkozy et Kadhafi?
Ah, bonne question effectivement Amaïb, et c'est vrai que cette audition a eu lieu le 24 mars, on ne l'a appris que la semaine dernière. Faut dire que c'est dans le plus grand secret hein, que des magistrats français se sont rendus à Dakar, où vit l'ex-président malien en exil depuis son renversement il y a maintenant 3 ans. Bonjour Karine Franck.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes la correspondante permanente d'RFI au Sénégal. Pourquoi l'ancien président malien a-t-il été entendu dans cette affaire?
Alors personnellement, je suis pas dans le secret, hein, mais ce n'est pas parce que Amadou Toumani Touré a été entendu qu'il y a forcément un lien véritable, hein, entre les trois hommes. En fait, d'après nos informations, l'ancien président du Mali a été interrogé comme simple témoin par la division des investigations criminelles de la police judiciaire du Sénégal, en présence de deux magistrats d'instruction, deux juges d'instruction français, deux magistrats français, deux juges du tribunal de grande instance de Paris. La DIC exécutait une commission rogatoire internationale de la justice française. Alors pourquoi ces magistrats français ont voulu entendre ATT ? C'est d'abord parce qu'on sait que l'ancien président était un proche du guide libyen. Les deux hommes se parlaient régulièrement. ATT aurait pu avoir des informations utiles à livrer à la justice française. L'autre raison, c'est parce que l'un de ses conseillers spéciaux est cité par d'autres témoins dans ce dossier. Il s'agit du malien Amadou Cherbani Kanté, qui coordonnait le LAP, le Fonds d'investissement libyen au Mali. Et c'est ce fonds qui aurait servi à financer la campagne de Nicolas Sarkozy, à supposer bien sûr que ce financement libyen ait vraiment eu lieu. Alors selon un de ses proches, Amadou Toumani Touré aurait répondu au juge qu'il n'avait jamais été informé d'un tel financement. Il n'avait jamais été mis dans la moindre confidence, ni de la part du guide libyen, ni de la part de son conseiller. L'audition aurait duré une demi-journée. Une bonne source affirme qu'il ne devrait pas être interrogé de nouveau, ni faire l'objet d'une poursuite quelconque, parce que il a juste été entendu comme simple témoin. Juan.
Voilà, les magistrats français qui veulent savoir si oui ou non le Mali a servi de plaque tournante à des versements libyens occultes destinés au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. On rappelle quand même que depuis 2 ans, une enquête est ouverte ici en France, hein, pour corruption, blanchiment, trafic d'influence et abus de biens sociaux. Et à ce jour, aucune preuve irréfutable n'a été produite sur un quelconque financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007. Voilà Amaïb, ce que vous pouvez répondre à votre question. On remercie évidemment Karine Franck, notre correspondante permanente à Dakar, RFI à Dakar, c'est sur les 92 FM et il est sur place 8h22 minutes. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre Nicolas, vous êtes journaliste au service international de RFI. On a reçu plusieurs questions après l'accord conclu entre les grandes puissances et l'Iran, accord évidemment sur le nucléaire iranien. Souleymane, bonjour.
Bonjour Monsieur Juan, bonjour à tout le monde.
Vous nous appelez d'Angola, vous êtes dans la province de Luanda, la province de la capitale. On vous écoute.
Oui Monsieur Juan, à propos de l'accord sur le nucléaire iranien qui prévoit le démantèlement des installations, j'aimerais savoir comment est parti faire à opérer le contrôle et le démantèlement du centrifugeur.
Ah oui, les fameuses centrifugeuses. On précise, Nicolas, d'abord que l'accord conclu la semaine dernière à Lausanne, c'est une ébauche, hein. Tout le monde attend évidemment l'accord définitif. En tout cas, dans le document qui a été signé, l'Iran prend un certain nombre d'engagements, dont celui de réduire son parc de centrifugeuses. Les centrifugeuses, ce sont ces machines, hein, qui permettent d'enrichir l'uranium.
Oui, des machines de très haute technologie, de très haute précision, qui, en tournant, effectivement, enrichissent l'uranium à la fois pour un programme civil ou pour un programme militaire, le problème étant en l'occurrence l'ambiguïté et les doutes ces dernières années sur la nature du programme nucléaire de l'Iran. L'Iran possède actuellement 19 000 centrifugeuses, mais il n'y en a que 10 000 qui sont en état de fonctionner. À l'issue des négociations de Lausanne la semaine dernière, l'Iran et le groupe des 6 pays qui négocient avec Téhéran n'ont pas officiellement publié de chiffres, hein, sur le devenir de ces machines, mais seulement un communiqué conjoint dans lequel on peut lire que l'Iran va limiter sa capacité d'enrichissement pour une durée spécifiée. Ce sont les États-Unis qui ont publié un document plus précis dans lequel on peut lire que l'Iran va se limiter à 6104 centrifugeuses.
C'est très précis.
C'est très précis, dont 5060 qui enrichiront de l'uranium, et ce pour une durée de 10 ans. Alors l'Iran n'a pas confirmé ces chiffres, il ne les a pas dénoncés non plus, et donc aujourd'hui chacun les considère comme agréés par toutes les parties en vue effectivement d'un accord définitif. Alors
qui va contrôler le fait que l'Iran respecte oui ou non cet accord?
Alors, si un accord final est conclu dans les prochaines semaines, c'est l'Iran qui va procéder aux modifications nécessaires, parce que l'Iran est un pays souverain, et en plus un pays qui adhère au TNP, le traité de non-prolifération nucléaire.
Donc, il n'y aura pas d'inspecteur de l'AIEA?
Alors si, la question n'est pas de savoir qui tient le tournevis pour démonter les machines, c'est la question de la vérification de ces gestes cruciaux dans ce dossier. C'est donc l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est une agence de l'ONU, qui sera chargée du contrôle. L'AIEA qui mène déjà depuis longtemps des inspections en Iran, mais la déclaration conjointe de Lausanne, dont on parlait plus tôt, mentionne un accès élargi aux installations nucléaires iraniennes afin, je cite, de faire la lumière sur les problèmes passés et présents. Et les vérifications effectuées par l'AIEA dans le cadre, encore une fois, d'un accord définitif, ces vérifications seront déterminantes puisqu'elles permettront ou non la levée des sanctions, toujours d'après le compromis de Lausanne.
Ça veut dire que les inspecteurs de l'AIEA, si l'accord est conclu, auront carte blanche, ils pourront se rendre là où ils voudront se rendre, parce qu'il y a évidemment des sites qui sont clandestins, ils pourront également se rendre dans ces sites-là.
Alors, le compromis de Lausanne prévoit que les procédures seront agréées. On est donc là dans les détails qui doivent être encore négociés d'ici au 30 juin. Et on sait que les annexes, les précisions du texte qui devra finalement être agréé si tout se passe comme prévu, c'est encore beaucoup de travail, encore un gros casse-tête pour les diplomates, pour les techniciens, pour les experts nucléaires, notamment sur ces questions précises et questions ultra sensibles.
Autre question, Nicolas Falaise, elle nous vient de Bukavu, l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour Franck.
Bonjour Juan.
Nous vous écoutons.
Ma question était de savoir quelles sont les conséquences de cet accord sur le plan, sur la stabilité sous-régionale, l'accord de l'Iran et les grandes puissances sur la stabilité sous-régionale, concrètement.
L'accord, on peut le dire, Nicolas Falaise, a été généralement plutôt bien salué.
Oui. Alors,
dans la région,
peut-être qu'il faut.
Il y a quelques exceptions.
Oui, mais alors peut-être qu'il faut à nouveau préciser, parce que c'est important, que ce n'est pas un accord définitif, ce n'est pas un accord tout court d'ailleurs. C'est une liste de paramètres. On a parlé parfois d'accord cadre ou d'accord politique qui a été donc défini à Lausanne par l'Iran et les 5+1, ce qui constitue déjà une percée importante. Hein, et l'accord définitif, on le disait, il faut le régler d'ici au 30 juin, qui est la prochaine échéance. Alors, en quoi, nous demande Franck, cet accord pourrait être un facteur de stabilité régionale s'il est effectivement conclu avant l'été? Il pourrait être un facteur de stabilité régionale s'il éloigne le risque de voir l'Iran se doter de la bombe et s'il met fin à une crise de prolifération nucléaire. Depuis des années, l'Iran dit « nous ne voulons pas la bombe atomique », la communauté internationale en doute. Le but des négociations depuis des années, c'est de faire correspondre la réalité de ce programme nucléaire avec ce que revendique l'Iran, à savoir « nous voulons un programme nucléaire civil ». On peut imaginer aussi, en termes de stabilité ou d'évolution régionale, qu'un accord empêche, freine, limite une course au nucléaire dans la région, qui verrait différents pays vouloir se doter d'un programme civil ou militaire ou ambigu dans les prochaines années. S'il consacre aussi le retour de l'Iran sur la scène régionale et internationale, à condition toutefois que ce retour permette d'avancer vers le règlement des crises de la région dans lesquelles l'Iran a un rôle. On pense au Yémen, on pense à l'Irak, on pense à la Syrie. Donc ces arguments, ceux d'un accord qui avance vers la stabilité régionale, sont globalement ceux des partisans d'un accord, aussi bien en Iran que parmi le groupe des 6 qui négocie depuis des années avec Téhéran. Rappelons qu'il s'agit des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne.
Ouais, Nicolas, que disent les détracteurs d'un accord? Parce qu'il y en a des détracteurs, on pense notamment à Israël.
Alors, en premier lieu Israël, mais aussi une partie du Congrès américain, par exemple. On voit bien que ça devient un sujet de politique intérieure aux États-Unis. Alors, les détracteurs de l'accord disent que c'est une garantie insuffisante pour être sûr que l'Iran n'aura jamais la bombe atomique. Ils disent que la durée de cet accord, 10 à 15 ans a priori selon les chapitres, ne fera que retarder le problème, que cet accord renforcera l'Iran en tant que puissance régionale, ce qui inquiète donc Israël, qui estime que son existence est menacée par l'Iran, ce qui préoccupe aussi l'Arabie Saoudite, rivale de l'Iran dans la région. L'Arabie Saoudite qui toutefois a réagi plutôt positivement à la percée de Lausanne, en espérant qu'un accord final renforcera justement la sécurité au Moyen-Orient. Donc, Pour y voir plus clair, il faut attendre un accord définitif, il faut voir s'il est respecté. Et on sait bien que la stabilité de la région est aujourd'hui conditionnée par bien d'autres facteurs que le dossier du nucléaire.
Merci Nicolas Falaise d'être venu répondre notamment à Franck hein, qui nous appelait de Bukavu. D'autres questions à la rédaction, ce sera lundi d'ici là. Vous connaissez le principe, vous nous appelez, vous nous laissez vos coordonnées sur le répondeur, vous nous envoyez également vos questions sur la page Facebook de l'émission ou par courrier électronique. Hein, il me reste 15 secondes, je vous rappelle l'adresse, mais je la donne rarement. Hein. Appel au pluriel. actu@rfi.fr. À suivre le point complet sur l'actualité et dans 10 minutes la libre antenne. Soyez nombreux, on vous attend.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et paiement mobile.